grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Et ce matin, nous attendons toutes vos questions sur les hormones. Cortisol, dopamine, insuline, mélatonine, testostérone, œstrogène, adrénaline, ocytocine. Les hormones sont des substances chimiques élaborées par une glande endocrine et qui exercent une action spécifique sur le fonctionnement d'un organe. Et si certaines modifications de notre santé ou de notre bien-être avaient une cause hormonale, qu'il s'agisse d'une fatigue qui s'installe, d'un sentiment de déprime, de saute d'humeur, d'une prise de poids, d'une baisse de forme, d'un mauvais sommeil, de problèmes de peau, sans oublier la survenue d'un diabète. Nous verrons comment fonctionne les principales hormones, pourquoi assiste-t-on à des dérèglements, quelles sont les conséquences concrètes sur notre santé, quels sont les signaux d'alerte, et puis comment les perturbateurs endocriniens agissent sur nos hormones. 01 45 24 7000, sans oublier l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Avec nous pour nous éclairer, le docteur Emmanuel Lecornet-Socol et le docteur Réginald Alouche, et avec bien sûr Aline Perraudin, directrice de Santé Magazine. Bonjour Baptiste Beaulieu.
Bonjour Aline.
Médecin et écrivain, je ne commenterai pas votre chemise fleurie. Tous les lundi, vous nous racontez une médecine à visage humain.
Oui, aujourd'hui on va parler personnes âgées, tomates biologiques et Émile Zola.
À tout à l'heure. Bonjour Thierry Lhermitte.
Bonjour Alice.
Ambassadeur très impliqué de la Fondation pour la Recherche Médicale. Tous les mois, vous rencontrez une équipe scientifique. Qui avez-vous visité ce mois-ci?
J'ai rencontré le professeur Eric Deutsch, qui est chef du département de radiothérapie à l'Institut Auguste Gustave Roussy à Villejuif, qui est le premier centre de lutte contre le cancer en Europe. Et dirige une équipe qui s'occupe d'intelligence artificielle.
A tout à l'heure en fin d'émission. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali Rébéi.
Bonjour docteur Emmanuel Lecornet-Socol.
Bonjour Ali.
Vous êtes endocrinologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris et vous venez de publier un ouvrage très pédagogique, passionnant, chez Hachette Bien-être, Et si c'était hormonal, avec Caroline Balma-Chaminadour. Bonjour docteur Réginald Alouche.
Bonjour Ali.
Vous êtes diabétologue, chercheur, ingénieur et vous avez notamment publié la méthode anti-diabète, comment limiter ou stopper les risques en poche chez Gélu. Alors c'est quoi exactement un endocrinologue? C'est une question bête comme chou, je le sais, j'assume. Docteur Lecornet-Socol.
Alors un endocrinologue, ce n'est pas un endocrinologue, je n'endoctrine personne, enfin j'essaye en tout cas, mais c'est le docteur des hormones, de la même façon que le cardiologue est le docteur du cœur, le dermatologue le docteur de la peau, l'endocrinologue c'est le docteur des hormones et du diabète.
Qu'est-ce qu'une hormone et à quoi servent-elles ?
Les hormones, alors on en a plusieurs centaines dans le corps, il y en a une cinquantaine qui sont bien connues, dans le livre on en parle d'une vingtaine. Une hormone en fait c'est un messager qui va circuler dans le sang, donc qui est fabriqué par des glandes spécialisées et qui va donner des messages à d'autres organes.
Réginald Lalouche, les hormones apparaissent parfois comme des forces mystérieuses qui nous gouvernent.
Écoutez, ça c'est une interprétation, mais la réalité c'est que ce sont des messagers. En fait, un organe va sécréter une hormone pour parler avec un autre organe et pour avoir une action sur l'organe. Par exemple, le cerveau va sécréter des hormones qui vont avoir des actions sur le pancréas, le foie, un certain nombre d'autres organes. Et quand il veut, en fait, l'homme c'est un assemblage d'hormones occupé par des bactéries et tout le monde doit se parler. Et pour se parler, eh bien, on assemble des petits acides aminés sous forme de protéines qui deviennent des hormones et ces hormones vont être actives et reconnues par certains organes et pas par d'autres. Parce qu'il y a aussi des récepteurs qui vont comprendre le message. En fait, ce sont des messagers qui ont un langage spécifique et chaque cellule a un récepteur spécifique pour ce langage. En fait, c'est très multilingue, hein, c'est très multilingue notre organisme.
Comment est constitué le système endocrinien, docteur Emmanuel Lecornet-Socol?
Alors, il y a des organes spécialisés, des glandes. Il y en a plusieurs, il y en a qui sont assez connus. La thyroïde, je suis sûre que vous en avez entendu parler. D'autres qu'on connaît un peu moins, les surrénales qui sont au-dessus des reins. Il y a l'hypophyse, qui est à la base du cerveau. Puis il y en a bien sûr que vous connaissez évidemment, Ali, les ovaires, les testicules, je pense que ça vous dit quelque chose.
Oui, bien sûr.
Et puis il y a aussi dans d'autres organes, certaines cellules spécialisées qui fabriquent des hormones. Savez-vous, dans notre intestin par exemple, dans notre graisse. Alors la graisse, ça fabrique plein d'hormones. C'est pas juste quelque chose qui est là pour nous embêter au moment où l'été arrive.
Il y a le pancréas aussi ?
Exactement. Alors le pancréas, lui, il a vraiment deux fonctions. D'une part, il fabrique la bile. Et au milieu de ce pancréas, il y a, on appelle ça des petits îlots, donc des cellules qui vont fabriquer, et notamment une hormone qui est hyper connue, qui est l'insuline. C'est l'hormone qui va réguler notre taux de sucre, et c'est celle-là qui dysfonctionne quand on a un diabète.
On va y revenir tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe une fois que ces hormones sont sécrétées ? Comment circulent-elles dans le corps ?
Alors elles circulent par le sang. Elles sont acheminées, parfois elles sont liées à d'autres protéines et puis hop, dès qu'elles vont rencontrer un récepteur, donc une espèce de porte, en fait c'est la clé qui va ouvrir les portes dans certaines cellules ou certains organes. Je peux vous donner un exemple peut-être ? Alors il y en a une que vous connaissez, l'hormone de croissance. Elle est fabriquée dans l'hypophyse, donc dans le cerveau. Elle va être envoyée dans le corps et quand elle va activer certaines autres hormones, et ben c'est ça qui va permettre aux enfants d'avoir leurs os qui grandissent. C'est cette hormone de croissance qui permet à nos enfants de devenir de plus en plus grands.
Est-ce que vous pouvez citer quelques-unes des principales hormones ?
Alors il y a les hormones thyroïdiennes, l'insuline et le glucagon, qui est l'hormone qui travaille en compagnonnage. Il y a aussi la dopamine, la sérotonine, l'ocytocine.
La testostérone.
La testostérone, qui est essentiellement fabriquée par les hommes, mais un petit peu par les femmes aussi. Et puis les hormones féminines, l'estradiol, la progestérone. Les femmes sont plus compliquées, elles ont deux hormones, les hommes n'en ont qu'une principale en tout cas.
Alors tout au long de notre vie, de la naissance à la mort, les hormones agissent souvent pour le meilleur et parfois pour le pire.
Oui, alors parfois il peut y avoir des maladies, parfois ce sont juste de simples dysfonctionnements qu'on peut essayer de réguler, soit de manière naturelle, soit parfois avec des médicaments. Et puis parfois il peut y avoir des maladies beaucoup plus sévères. Et dans ces cas-là, on a effectivement des moyens. La médecine peut vraiment beaucoup aider dans ces cas-là.
Quelles sont les grandes étapes de la vie qui sont marquées par des transformations hormonales ?
Alors dès la naissance, en fait, cette fameuse hormone de croissance, elle va être explosive dans les premiers mois de vie. Après, on en fabrique beaucoup. Puis au moment de la puberté, là, tout le monde sait, hein, c'est en fait, qu'est-ce qui se passe au moment de la puberté ? Non seulement on a un pic d'hormones de croissance, mais c'est là aussi que l'on se met à fabriquer les hormones sexuelles. Et donc, cette balance va être complètement bouleversée. Et c'est pour ça qu'on va avoir des adolescents qui vont avoir des comportements parfois complètement inadaptés. Mais il n'y a pas que les hormones sexuelles. Par exemple, la dopamine aussi va être très altérée. Et vous savez, les ados qui ont tendance à regarder la télé pendant des heures, avoir des comportements, aller dans des soirées parfois un peu arrosées, à être attirés par des choses que nous, parents, ne souhaiterions pas, eh bien probablement c'est parce qu'il y a aussi une part de leurs hormones qui sont dérégulées.
Autre étape importante, la ménopause ?
Voilà, alors la ménopause, c'est le moment où les hormones sexuelles féminines s'arrêtent. Donc là, il y a un arrêt complet du fonctionnement des ovaires. Le taux d'estrogène, donc d'hormone sexuelle féminine, va s'effondrer de manière assez brutale, en général sur une période entre 6 mois et 2 ans selon les femmes. Mais en fait, chez les hommes, il y a aussi un phénomène qui est beaucoup plus lent, qui commence à partir de 50 ans.
L'andropause ?
Oui, c'est toujours un peu contesté. Toujours est-il qu'il y a quand même une diminution, même si les hommes ont, j'ouvre des guillemets, cette chance de conserver effectivement quand même une sécrétion de testostérone jusqu'à la fin de leur vie.
Allez, nous attendons toutes vos questions sur les hormones au 01 45 24 7000, sans oublier l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Vous Fasse. Alexia Rivière et Alexia Lacour m'ont aidé à préparer cette émission avec Nicolas Bove et c'est réalisé par Claire Destacan. Come back news talking this and that. réveiller ma dopamine s'élève brusquement en écoutant Happy de Pharrell Williams.
Vous êtes le docteur qui d'abord ?
Grand bien vous fasse.
Ah non, non, moi je suis pas docteur.
C'est un grand malade.
Mais justement, c'est pour ça que je suis là, parce que je suis très malade.
Sur France Inter.
10h19 et nous attendons toutes vos questions sur les hormones au 01 45 24 7000. Pour vous répondre, les docteurs Réginald Alouche et Emmanuel Lecornet Sokol. Question de notre médecin Baptiste Beaulieu.
Oui, quelle est la différence exactement où vous placez le curseur entre neurotransmetteurs et hormones ?
Alors la différence est parfois difficile à faire et c'est pour ça qu'on parle même de neurohormones parce que certains des neurotransmetteurs en fait qu'on fabrique donc dans notre cerveau, qui sont des messagers qui vont permettre deux neurones de parler entre eux, vont aussi parfois passer dans le sang et puis il y a certains neurotransmetteurs qui sont fabriqués ailleurs dans le corps. Par exemple, Baptiste, savez-vous que la sérotonine est fabriquée essentiellement dans notre intestin et non dans le cerveau, et que donc c'est sous l'influence du microbiote intestinal que nos taux de sérotonine vont être modifiés.
Bonjour Laurence, vous appelez de Haute-Saône, bienvenue dans l'émission. Quelle est votre question ?
Bonjour à toute l'équipe de France Inter et merci pour vos émissions de très grande qualité.
Merci.
Alors
à vous.
Voilà ma question. Donc je suis en période de ménopause depuis 3-4 ans avec tous les désagréments que cela apporte. Je voulais savoir donc si le traitement hormonal substitutif était approprié, sachant que j'ai eu pas mal d'endométriose il y a une vingtaine d'années.
Mmh. Emmanuel Lecornet-Sokol.
Merci beaucoup de votre question. Alors effectivement, quand on a une ménopause, parfois on peut être très gêné par beaucoup de symptômes. Le premier qui est très connu, c'est les bouffées de chaleur. On se réveille plusieurs fois la nuit, ça empêche de dormir. Du coup, il y a une grande fatigue, une grande irritabilité. Et puis on peut avoir aussi tous les phénomènes de sécheresse, de la peau, une chute des cheveux et aussi tous les problèmes liés à la sexualité, une sécheresse vaginale, une baisse de la libido. Et donc parfois, effectivement, on peut utiliser des traitements hormonaux substitutifs qui sont des hormones naturelles que l'on prend. Parfois, dans certaines situations, on ne peut pas utiliser ces hormones, notamment chez les femmes qui ont des risques de cancer du sein. C'est très important. Donc ça doit toujours être une discussion. Et c'est vrai que dans le cas de l'endométriose, c'est parfois difficile de pouvoir utiliser ces traitements. Et donc c'est là qu'on peut essayer quand même certains médicaments plus naturels qui peuvent parfois aider.
Merci beaucoup Laurence pour votre question. Alors, j'aimerais qu'on explore quelques déséquilibres hormonaux. Réginald Alouche, pouvez-vous nous expliquer les liens entre l'insuline, le glucagon et le diabète ?
Alors l'insuline c'est l'hormone reine, non déplaise, c'est une hormone qui a une puissance incroyable. En fait l'insuline c'est une hormone qui a deux actions, elle est sécrétée par le pancréas lorsque vous avez un petit pic de glycémie, elle est sécrétée par le pancréas et elle va avoir deux missions. La première mission c'est de faire entrer le sucre dans les cellules. Si vous n'avez pas d'insuline qui se connecte sur les récepteurs, le sucre n'entre pas dans les cellules et donc la cellule n'est pas nourrie. Et deuxièmement, elle a un autre rôle qu'on oublie un peu, c'est que c'est elle qui régule ce qu'on appelle la lipogénèse, c'est-à-dire que les sucres que vous absorbez, les calories que vous absorbez qui ne sont pas utilisées dans les muscles, vont être stockées dans des cellules spécialisées qu'on appelle les adipocytes. Mais avant d'être stockées dans les adipocytes, elles peuvent aussi être stockées dans le foie. En fait, il y a une relation très intime entre l'insuline sécrétée par le pancréas et le foie, parce que c'est le foie qui est chargé d'en débarrasser l'organisme et de la métabolisme. Comme on dit en termes techniques. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si vous buvez de l'alcool, par exemple, ou si vous mangez trop de fructose, pas trop de fruits, mais trop de fructose, aux États-Unis, par exemple, les boissons sont édulcorées avec du fructose, à ce moment-là, le foie rend prioritaire le fait de se débarrasser du fructose et de l'alcool, et il ne va pas métaboliser l'insuline, et il va stocker des graisses dans son foie, et ça va augmenter le risque de diabète. Parce qu'en fait, le diabète, on dit souvent que c'est une maladie du pancréas, alors bien sûr, il y a le diabète de type 1, qui est une maladie auto-immune, où un enfant fait une infection. À ce moment-là, il va détruire son pancréas et les particulièrement la partie endocrine. Et puis, il y a le diabète de type 2. Donc, le traitement pour l'enfant, c'est des injections d'insuline tous les jours, 3 ou 4. Et pour le diabète de type 2, qui est le plus courant, puisque 90% des diabètes sont des diabètes de type 2, c'est le diabète de « je fais pas de sport, je mange un peu trop » et ainsi de suite. Et ce diabète-là, en fait, le seul traitement, c'est de perdre du poids, de faire de l'exercice. Et donc, cette insuline qui fait rentrer le sucre dans les cellules, comme elle fait rentrer le sucre dans les cellules, le sucre dans le sang diminue, c'est ce qu'on appelle la glycémie, donc il y a une glycémie qui diminue. Et il y a une autre hormone qui est exactement son inverse, qui est le glucagon. Et ce glucagon, c'est une hormone qui va, elle, au contraire, mobiliser les réserves du foie et remonter l'insuline la glycémie dans le sang. Et en fait, le diabète, c'est une maladie qui peut être soit due à un déficit d'insuline, soit due à une relative fainéantise de nos récepteurs, parce que à force d'être stimulés, ben ils sont de plus en plus. Et puis c'est surtout les apports alimentaires trop importants et le fait de pas pratiquer de sport.
Docteur Emmanuel Le Cornet-Socol, quels sont les liens entre des poils en excès, une peau grasse, des ongles cassants, quels sont les liens avec un déséquilibre hormonal?
Alors, il y a plusieurs causes qui peuvent déclencher tous ces problèmes. Donc, par exemple, pour la peau grasse chez les jeunes femmes en particulier, c'est une raison de consultation très fréquente. Docteur, j'ai la peau grasse, j'ai de l'acné, j'ai les cheveux qui tombent, j'ai un excès de pilosité. Ça, c'est dû à un excès de testostérone. En fait, les femmes aussi fabriquent un peu de testostérone, donc l'hormone masculine. C'est normal. Heureusement qu'on en a. C'est elle aussi qui nous donne un peu de caractère. Mais parfois, ce taux de testostérone est un peu en excès. Souvent, ça s'accompagne aussi de problèmes de règles, avec des règles qui viennent pas assez souvent, tous les 2 mois, 3 mois. Notamment, il y a un syndrome fréquent qui s'appelle le syndrome des ovaires polykystiques. Et donc, effectivement, c'est un problème hormonal. Ça s'associe souvent d'ailleurs à un excès de poids, à une tendance au diabète et aux excès de graisse. Et l'un des premiers moyens qu'on a avant même de donner des traitements hormonaux, c'est de proposer aux femmes de faire un régime, de perdre du poids et d'avoir surtout de l'activité physique, comme le docteur Alouche l'expliquait.
Pourquoi certaines hormones sont-elles impliquées dans notre bien-être et notre équilibre? Je pense évidemment à la sérotonine, à la dopamine, mais également à l'adrénaline, qui sont à la fois des hormones et des neurotransmetteurs. Quels sont les liens?
Alors, par exemple, la sérotonine, comme je vous disais tout à l'heure, elle est fabriquée en grande partie au niveau de notre intestin. Et donc, cette sérotonine, c'est elle qui va nous apporter, on l'appelle un peu hormone du bonheur. C'est elle qui va permettre qu'on se sente bien, qu'on soit de bonne humeur, qu'on ait de l'optimisme, qu'on ait envie de faire des choses. Et donc, parfois, elle peut dysfonctionner. Il y a d'ailleurs des médicaments qu'on utilise, les antidépresseurs, qui sont très connus et qui vont agir sur cette sérotonine. Autre hormone qui peut agir également sur notre plaisir, c'est par exemple la dopamine. Dès que vous avez quelque chose qui vous apporte, vous savez, qui vous titille un peu, par exemple, quand vous allez sur vos réseaux sociaux et que vous voyez que vous avez posté une photo et qu'elle a été likée plusieurs centaines de fois, hop, vous avez un petit coup de dopamine et vous allez re-liker, etc., etc. Et puis parfois, on est un peu accro à cette dopamine et donc c'est elle qui nous rend un peu addict à certaines situations.
De la même façon, quand on mange du sucre, on a une sécrétion de dopamine, et ce qui fait qu'on veut y revenir et on reprend du sucre et ainsi de suite. Et puis à un moment, il peut y avoir un effet d'épuisement. Mais juste sur les hormones, je voudrais juste insister sur le fait que l'homme, c'est une balance entre le calme et le stress. Et en fait, on a des hormones du stress, comme le cortisol et d'autres hormones, et des hormones du relief, du je vais bien, comme la sérotonine et la dopamine. Et en fait, l'équilibre, c'est d'avoir un équilibre entre ces deux types d'hormones et cette balance. Alors, on peut avoir, c'est pour ça, quand on se pose la question de l'effet de la méditation, par exemple. La méditation, c'est une façon de remonter le taux des hormones qui vous calment et qui vous tranquillisent.
Question d'Aline Perraudin de Santé Magazine.
Est-ce qu'en vieillissant, on sécrète de moins en moins d'hormones? Et pas uniquement les hormones sexuelles, mais toutes.
Alors oui, il y a beaucoup d'hormones qu'on fabrique en moins grande quantité, donc les hormones sexuelles bien sûr, mais certaines hormones des surrénales aussi, donc par exemple la DHEA. La DHEA, c'est une hormone dont on avait beaucoup parlé il y a une vingtaine d'années. On avait dit que c'était l'hormone de la jeunesse, etc.
Avec le professeur Beaulieu.
Exactement. Et malheureusement, on a été un petit peu déçus de ses effets. En plus, il peut y avoir des effets secondaires en prenant ce type d'hormone. Donc, on le réserve maintenant que à certaines situations. Mais une partie, c'est sûr, des effets, en tout cas, du vieillissement est liée à la diminution de cette hormone. Les hormones thyroïdiennes aussi ont tendance à diminuer avec l'âge. Alors c'est toujours difficile de savoir quelle est une diminution naturelle d'une qui soit liée à une maladie. Mais effectivement, il y en a d'autres, l'hormone de croissance qui diminue aussi avec l'âge. C'est-à-dire que même quand on est adulte, on fabrique un petit peu d'hormones de croissance et ça diminue avec l'âge.
Réginald Lalouche.
Un bon effet anti-âge, c'est l'exercice physique. Vous comprenez très simplement que si vous augmentez le débit sanguin de temps en temps, vous allez restimuler vos glandes et elles vont pouvoir sécréter. C'est pour ça que l'exercice physique, c'est une thérapie, c'est une thérapeutique, c'est un médicament, en plus qui n'est pas très très cher.
À quel moment faut-il faire un bilan hormonal ?
Alors, on ne fait pas de bilan hormonal systématique comme ça, en se réveillant un matin en disant tiens, je vais aller regarder mes hormones. C'est si on a un problème. Alors, si on a par exemple une prise de poids inexpliquée, donc c'est-à-dire qu'on fait, comme nous dit le docteur Alouche, une activité physique régulière, qu'on essaye de modifier son alimentation et qu'on n'arrive pas à perdre du poids, là, ça peut être utile de consulter. Ou alors, comme on disait tout à l'heure, si on a des problèmes de cycles qui sont irréguliers, des règles qui ne surviennent pas tous les mois, là aussi il faut consulter. Si on a un gonflement au niveau de la gorge, donc ça peut être aussi quelque chose qui se passe au niveau de la thyroïde, donc là aussi on peut consulter.
Pour les hommes, on peut aussi mesurer sa testostérone libre, parce que c'est la plus importante, elle est difficile à mesurer. Mais pour les hommes qui ont une libido qui diminue, des érections matinales un peu difficiles, à ce moment, parce que l'érection matinale, comme vous le savez, c'est une érection qui n'est pas psychogène, elle est naturelle. Mm-hmm. Et donc, on peut aussi mesurer sa testostérone. Et il y a effectivement des traitements qui peuvent aider. S'il n'y a pas de problème prostatique, enfin, on ne va pas rentrer dans ce détail-là. Mais en gros, les hormones, c'est une arme extraordinaire, justement, pour se maintenir en bonne santé.
Un auditeur nous demande, j'ai un problème de sudation nocturne lié à des réveils nocturnes. Est-ce que c'est dû à un dysfonctionnement hormonal?
Le plus souvent, non. Le plus souvent, c'est effectivement un motif de consultation assez fréquent. Donc parfois, on recherche certaines maladies qui sont assez rares, des maladies des surrénales, je pense aux phéochromocytomes. Mais honnêtement, la plupart du temps, on est plus dans un problème de température de la chambre qu'il faut laisser basse lorsque l'on dort. D'ailleurs, ça permet d'améliorer la qualité du sommeil. Notre température baisse physiologiquement pendant la nuit et cette transpiration, elle est liée justement à ça. Et notamment, à cause des hormones, on a cette baisse de température.
Beaucoup de questions sur le sommeil. Donc, j'ai du mal à m'endormir. Est-ce lié à un dérèglement hormonal? Est-ce que le manque de mélatonine entraîne des difficultés d'endormissement?
Alors, ça peut être l'une des raisons. Normalement, la mélatonine, on la fabrique de manière très efficace en fin de journée, notamment quand on s'est exposé beaucoup à la lumière du jour. Donc si votre mode de vie fait que vous êtes peu exposé à la lumière du jour, ça peut altérer la sécrétion de mélatonine qui commence en fin de journée. Et effectivement, du coup, vous pouvez avoir des difficultés à vous endormir. Évidemment, ce n'est pas la seule cause, mais en tout cas, quand on a des problèmes de sommeil, ça peut être un moyen d'améliorer les choses. Par exemple, si vous faites de l'activité physique dans la journée, justement, quand vous allez faire une balade à l'heure du déjeuner ou faire votre jogging à l'heure du déjeuner, là, vous allez pouvoir probablement améliorer encore plus la qualité de l'endormissement.
Il y a également un problème pour les gens qui ont du mal à s'endormir, ce sont les écrans. Parce que les écrans à LED ont des tessitures bleues et qu'on sait que le bleu réveille le cerveau. Donc en fait, si vous voulez vous endormir déjà, laissez passer une demi-heure, une heure, après avoir vu votre film ou votre portable.
Aline Perraudin.
Que pensez-vous de la prise de mélatonine pour mieux s'endormir justement?
Alors, au départ, la mélatonine a surtout été utilisée pour les gens qui avaient des décalages horaires, donc qui prenaient l'avion pour éviter l'effet de jet lag. Et puis, ça a été testé quand même. Et effectivement, ça peut être efficace chez certains patients pour l'endormissement. C'est toujours mieux quand même de vérifier qu'il n'y a pas de contre-indication parce qu'il peut avoir des effets indésirables avec la prise de mélatonine. En général, ceux qu'on trouve dans le commerce sont peu dosés, donc il y a peu de danger. Mais si on veut augmenter les doses, là, il ne faut pas hésiter à consulter. Ça peut être un bon moyen. Une alternative en tout cas, par exemple, aux médicaments hypnotiques, oui, exactement, dont on connaît les méfaits.
Située au niveau du cou, la thyroïde, en forme de papillon, est une glande qui régule le fonctionnement des organes pour qu'ils fonctionnent à la vitesse adaptée. Par exemple, elle participe à la régulation du calcium dans l'ensemble de l'organisme en diminuant son taux présent dans le sang. Deux pathologies peuvent toucher votre thyroïde. L'hypothyroïdie, votre thyroïde sécrète trop peu d'hormones, cela entraîne une baisse de tonicité dans votre organisme qui peut se traduire par une prise de poids anormale, un ralentissement du rythme cardiaque, des constipations, une fatigue généralisée ou des difficultés de concentration. L'autre pathologie est l'hyperthyroïdie. A l'inverse, votre thyroïde sécrète trop d'hormones et dope votre organisme. Cela peut entraîner un amaigrissement anormal, une accélération du rythme cardiaque, des diarrhées, une hyperactivité, du stress. La thyroïde est un organe vital pour le bon fonctionnement de votre organisme. Si vous êtes touché par une pathologie de la thyroïde, des traitements efficaces peuvent être suivis.
Docteur Emmanuel Le Cornet-Sokol, la thyroïde, c'est sans doute la glande la plus souvent malade.
Alors en tout cas, c'est celle pour laquelle les patients consultent le plus souvent un endocrinologue. Pourquoi ? Parce que c'est une des glandes qui est les plus fréquemment atteinte. Il y a au moins 3 millions de personnes en France qui prennent des médicaments pour la thyroïde. Une femme sur deux après l'âge de 50 ans a des nodules, donc des boules dans la thyroïde. Donc effectivement, je pense que tout le monde connaît quelqu'un qui a un problème de thyroïde.
Bonjour Béaté Barthès, bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes présidente de l'association Vivre sans thyroïde. Alors vous, Béate, vous avez subi une ablation de la thyroïde en 2000, c'est ça ?
Oui, en 2000.
Mm-hmm. Alors
pour des nodules qu'on a trouvés par hasard lors d'une échographie et qui avaient un aspect un peu suspect. Donc on les a surveillés un peu, on a vu qu'ils grossissaient, et donc on a préféré m'enlever toute la thyroïde parce que j'en avais dans les deux lobes. Et après l'analyse, on a vu que sur les 4 nodules, 3 étaient cancéreux. Ça fait donc 19 ans que je vis sans thyroïde, je suis guérie et quand je suis bien dosée, je vais tout à fait bien.
Mais alors qu'est-ce qui se passe
par des périodes où j'étais mal dosée et là, on se rend compte que la thyroïde, ça joue sur à peu près toutes les fonctions de l'organisme et sur le psychisme aussi.
Tiens, Béaté, racontez-nous ce qui se passe quand votre médicament est mal dosé, votre médicament pour compenser l'absence de thyroïde. Racontez-nous un petit peu.
Oui, donc la lévothyroxine, c'est un médicament, on dit qu'il est à marge thérapeutique étroite, c'est-à-dire quelques microgrammes de plus ou de moins peuvent faire déjà une énorme différence et peuvent, si on en manque un tout petit peu, ça peut donner des symptômes d'hypothyroïdie, même parfois qu'on en est encore dans la norme, et qu'on en a un tout petit peu trop, on va être en hyper et on va s'énerver pour rien. Je me rappelle, je criais sur mes enfants, je cassais des assiettes et ils étaient effarés, ils comprenaient pas ce qui m'arrivait. Et en fait, c'était juste mes hormones qui étaient trop dosées. Donc, ça peut vraiment jouer sur énormément d'aspects et impacter pas mal la vie de la famille aussi.
Et à l'inverse, quand vous n'étiez pas assez dosé, quand les médicaments n'étaient pas assez dosés ?
Mais j'ai même dû passer à plusieurs moments pour des examens ou des traitements qu'on fait après un cancer avec des iodes radioactifs. Mmh. Il fallait rester à l'époque un mois ou même un mois et demi sans traitement du tout. Mmh. Et là, on est donc en grosse hypothyroïdie, vraiment très 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 fatigué. On pleure, on dort toute la journée, mais on est totalement épuisé, on ne peut pas se concentrer. En voiture, il faut même pas conduire parce qu'on on peut absolument pas se concentrer. On a les réactions ralenties. Je suis aussi tombée en vélo parce que j'avais pas la réaction pour éviter un petit trou dans la chaussée. Enfin, c'est vraiment très désagréable et ça joue beaucoup sur le psychisme aussi. J'étais complètement déprimée alors que c'est pas du tout ma nature et je pleurais pour rien. Je voulais divorcer, rien ne valait plus la peine. Enfin, c'était assez effroyable.
Est-ce que vous nous avez
bien dosé, mais il a bien fallu plusieurs semaines pour remonter la pente. Après, j'allais tout à fait bien et j'en rigolais. Mais
ce que vous nous avez dit hors antenne, c'est que les maladies liées à des problèmes de thyroïde sont des maladies invisibles chroniques. Ça ne se voit pas et ça impacte, hein, on l'entend, hein, et ça impacte grandement votre vie quotidienne et votre qualité de vie.
Oui, c'est souvent très difficile à expliquer à l'entourage et c'est aussi même difficile à diagnostiquer parce que il faut écouter le malade et les explications et il faut aussi connaître le malade pour voir qu'il n'est plus comme il était avant, par exemple, parce que bon, à le voir comme ça, il peut avoir l'air totalement normal, à part peut-être qu'il a pris quelques kilos ou perdu quelques kilos, mais le reste, le mal-être à l'intérieur, tout ça se voit pas du tout, donc il faut vraiment discuter, il faut essayer peut-être différents dosages en adaptant à quelques microgrammes près, en augmentant un tout petit peu ou en baissant un tout petit peu pour voir si ça va mieux, c'est pas évident du tout.
Docteur Emmanuel Le Carnet-Socol.
On se rend compte qu'on en a un problème, parce que tant qu'on ne l'a pas, on n'y pense même pas à la thyroïde, mais on se rend compte qu'elle joue absolument sur tout.
Merci beaucoup Béate, et effectivement je rebondis sur ce que vous dites, que l'adaptation du traitement quand on a un dysfonctionnement thyroïdien ou quand on a plus de thyroïde est parfois très délicat. Certains patients ont une sensibilité très importante et donc c'est toujours essentiel à la fois de regarder les dosages hormonaux, donc on fait dans le sang, mais également d'écouter le ressenti du patient pour pouvoir au mieux adapter le traitement. Et c'est vraiment un dialogue, un partenariat entre le médecin et le patient qui doit se faire.
Baptiste Bollier.
Moi, je trouve ça passionnant parce que là, ce qu'elle décrivait de ces changements de personnalité, ça pose une question quasiment philosophique, c'est qu'est-ce que c'est qu'un être humain ? Est-ce qu'on a un libre arbitre ou est-ce qu'on est juste une sorte d'animal-machine qui est soumis aux fluctuations internes de produits chimiques en nous, quoi ? C'est incroyable.
Oui, alors votre question est vraiment passionnante et on pourrait y passer des heures. Où est la normale? Est-ce que justement, même par exemple, quand on a un dysfonctionnement, est-ce qu'on est encore nous-mêmes ou pas? Parfois, j'ai des patients qui viennent me voir parce qu'ils ont un excès de fonctionnement thyroïdien, donc une hyperthyroïdie, et c'est souvent des dames. Et quand je sais qu'elles viennent, quand elles viennent avec leur mari, je sais que en fait, c'est parce qu'il y a des problèmes dans le couple et qu'il va falloir qu'on aide à faire quelque chose. Donc on essaye toujours de recontextualiser et de voir qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que le patient ressent pour pouvoir mieux adapter les choses et le traitement.
Merci beaucoup Béate pour votre témoignage. Allez, il est temps de retrouver notre médecin écrivain Baptiste Beaulieu. Alors voilà.
France Inter, grand bien vous fasse.
Non, apparemment je suis venu un peu tôt quoi. Je venais une heure plus tard, j'étais peut-être en pleine santé si ça se trouve.
Et voilà, exactement.
Alors voilà.
Baptiste Beaulieu, chaque lundi, vous nous racontez une médecine à visage humain.
Et oui, aujourd'hui, c'est l'histoire de Jean-Pierre, qui est un aide-soignant et qui travaille dans un service gériatrique à l'hôpital. Son quotidien, c'est prendre soin des personnes âgées. Un jour, en été, ces dernières discutent de leurs anciens jardins respectifs. Elles parlent du goût des cerises de leur enfance, des pommes aux mille et une formes, des salades et des tomates cultivées avec amour. Ah, les tomates. Ayant lui-même un jardin, Jean-Pierre, l'aide-soignant, commence alors à apporter régulièrement des tomates de chez lui. Il s'y attelle tout l'été avec application. Non traité, juste soleil et eau et amour, m'écrit-il avant de me détailler l'effet magique qu'ont ces tomates sur ces vieux patients. Leur visage s'illumine au moment du repas, il faut les voir croquer doucement dans mes tomates, fermer les yeux, savourer, ils en mangent tous. Il m'écrit que c'est bête, mais une simple tomate amène une complicité, même les moins bavards se mettent à discuter et ils rient, ils partagent quelque chose tous ensemble, alors ça efface la distance soignant-soigné, ce qui est précieux parce que pas si fréquent et ça facilite les soins. Ce sont des moments où les vieux patients et les vieilles patientes ruminent moins et se souviennent plus et surtout mieux, c'est-à-dire sans trop de mélancolie, de jolis morceaux de leur vie. Peut-être que le bonheur réside juste dans l'attention prêtée aux petites choses de la vie, tandis que le malheur résulterait de la négligence dans laquelle on tient ces petites choses. Peut-être, je ne sais pas. Toujours est-il que maintenant, me dit Jean-Pierre, mon collègue aide-soignant, infirmières et certains médecins viennent squatter ce moment tomate afin d'en profiter pour expliquer les soins et s'assurer qu'ils ont bien compris. Franchement, une tomate, c'est formidable, c'est magique. Et je conclurai avec cette phrase magnifique d'Émile Zola, une phrase que j'ai affichée chez moi tellement elle sonne juste. Rien n'est jamais fini, il suffit d'un peu de bonheur pour que tout recommence.
Merci Baptiste Beaulieu. On peut retrouver cette chronique en vidéo et votre chemise fleurie sur le site de France Inter, sur la page Facebook de Grand Main Vous Fasse et sur votre blog. Alors voilà, allez, nous attendons toutes vos questions sur les hormones au 01 45 24 7000.
Grand Bien Vous Fasse sur France Inter.
Les hormones. Elles exercent une grande influence sur le corps et ses organes. Fabriquées par les glandes surrénales, l'adrénaline, par exemple, est l'hormone de l'alerte, de l'urgence. Son rôle est d'accélérer les échanges, de dilater les vaisseaux des muscles en activité, pour permettre une meilleure irrigation de l'ensemble, de stimuler le cœur, de mobiliser les sucres qui alimenteront l'organisme et neutraliseront sa fatigue, de dilater les pupilles, de dilater les bronches, et de permettre de faire face aux situations imprévues.
Extrait d'Il était une fois la vie. Alors j'aimerais qu'on zoome sur une hormone qui a mauvaise réputation, le cortisol. Emmanuel Lecornet-Socol, c'est quoi exactement le cortisol et pourquoi est-ce que c'est une hormone qui a si mauvaise réputation?
Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Elle est fabriquée par les surrénales, des petites glandes qui sont juste au-dessus des reins. Et en fait, cette hormone, elle est vitale. Elle est vitale parce que c'est elle qui va le matin nous donner de la force et de l'énergie. Donc il y a un grand pic entre 7h et 9h. On se lève, on est en pleine forme, prêt à attaquer notre journée. Et puis après, au fur et à mesure de la journée, elle va diminuer. Et elle va pratiquement être à son niveau le plus bas, entre minuit et 4h du matin, là où on n'a pas besoin. Et en fait, elle a très mauvaise réputation parce que cette hormone, on l'utilise parfois en médicament. Vous savez, la cortisone. Parfois, vous avez une sinusite, alors votre médecin vous en donne, ou d'autres maladies. Et en fait, quand on en prend comme ça en médicament, on en prend en très grande quantité. Et là, on a les effets secondaires. La prise de poids, la perte des cheveux, la poussée des poils, l'acné, de l'hypertension, du diabète. Et donc, c'est pour ça qu'elle a très très mauvaise réputation. Mais en fait, elle est essentielle. Sans cette hormone, on ne peut pas vivre, on n'a plus d'énergie.
aussi. Réginald Lallouche.
Oui, en fait, c'est une hormone qui a une mauvaise réputation. Mais pour assurer nos auditeurs, c'est lorsqu'on la prend au long cours. D'ailleurs, je recommande aux gens qui prennent de la cortisone au long cours de manger sans sel, de pas consommer trop de sucre, parce qu'effectivement, il y a des problèmes liés aux complications. Si on prend un petit spray de cortisone, ça ne sera pas un problème sur 2-3 jours. En fait, le problème, c'est le dosage interne et le dosage externe. Le dosage externe est très très puissant.
Et puis, il y a certaines maladies qui sont graves où la cortisone est le seul médicament possible. Et donc, c'est extrêmement important de le prendre.
Question de Thierry Lhermitte.
Oui, est-ce qu'il y a des testeurs comme pour la glycémie, pour savoir, pour adapter son insuline pour d'autres hormones?
Non. On n'a aucun autre testeur à notre disposition. Alors par exemple, si on revient là tout à l'heure sur la thyroïde, souvent l'hormone qu'on mesure, c'est la TSH. Mais en fait, cette TSH, elle est toujours très longue à bouger. Donc à chaque fois que vous avez une modification de votre traitement, il faut attendre plusieurs semaines avant de redoser pour vérifier qu'on est bien dans le bon dosage. Les effets souvent sont ressentis avant par le patient et on le vérifie 6 à 8 semaines après.
Et le test de glycémie, on mesure le taux de sucre dans le sang. Oui. En fait, on mesure pas le taux de l'hormone.
Et pas une hormone.
C'est très compliqué. Et d'ailleurs, pour revenir à la question qui était posée sur l'équilibre, en fait, entre est-ce que nous sommes des animaux pensants, plus pensants qu'animaux, en fait, quand vous faites un test, on vous donne une marge. La glycémie, c'est entre 0,75 et 1,06. En fait, c'est la population, plus de 80% de la population, à ses limites. Et c'est vrai qu'en fait, les hormones, c'est un assemblage de chiffres dans des limites particulières qui font notre personnalité. Parce que les hormones, au fond, font notre personnalité.
Alors nous recevons un flot de questions, notamment la très bonne question d'Anaïs qui nous demande « Je suis sujette à de très grandes fatigues. Je voulais savoir quel était l'impact des hormones sur la fatigue. Quelles sont les raisons hormonales qui peuvent conduire à des fatigues passagères ou chroniques ?»
Les dysfonctionnements thyroïdiens sont les plus souvent retrouvés, mais également, donc ça peut être des dysfonctionnements du cortisol, par exemple. Et puis, surtout, quand vous avez un sommeil de mauvaise qualité, en fait, c'est aussi un cercle vicieux. C'est-à-dire que quand vous dormez mal et que vous êtes fatigué, ça va influer sur vos hormones. Et donc, par exemple, quand tout à l'heure, Réginald Lallouche parlait de l'activité physique qui était bonne, en fait, quand vous faites de l'activité physique, vous allez réactiver un certain nombre d'hormones. Vous allez permettre parfois de retrouver une bonne balance, de retrouver une bonne sécrétion de cortisol, mais également de dopamine, de sérotonine. Et ça, on sait que ça améliore la fatigue. Dans les gens qui ont des problèmes de fatigue chronique, souvent parce qu'ils ont des maladies, il y a beaucoup d'études maintenant qui ont montré que l'activité physique va permettre d'améliorer largement cette fatigue et leur qualité de vie.
Question de Mustapha. Quand je reste une semaine sans faire de sport, je suis triste et je perds goût à la vie et cet état me quitte dès la reprise du sport. Est-ce que c'est lié à une quelconque hormone ?
Ah oui, très certainement. C'est-à-dire qu'en fait, quand on fait du sport, il y a des gens d'ailleurs qui sont accros, comme on dit, au sport, simplement parce qu'on fait de la dopamine. Même la flore bactérienne se met à faire de la sérotonine, parce qu'elle fait 85%.
Les endorphines aussi.
Oui, en fait, les endorphines, ce sont des protéines et des hormones que le cerveau sécrète lorsqu'il est dans une situation régulière de plaisir. Et c'est ce que cherchent, par exemple, les joggeurs. On le sait. Il y a des gens qui sont obligés d'aller courir parce qu'ils sont complètement accros, comme ils seraient accros à de la cocaïne.
Question de François de Boulogne. Billancourt, comment savoir si je manque de testostérone et quels sont les risques d'un déficit et comment remédier à ce déficit ?
Alors c'est très simple, il faut d'abord savoir si on a des bonnes érections ou pas de bonnes érections, si on a un peu de libido ou pas de libido du tout, et puis on teste la testostérone totale, c'est une prise de sang, et la fraction libre de la testostérone, parce qu'on peut avoir une testostérone totale de qualité, mais pas avoir assez de libre.
Beaucoup de questions sur, on l'a un peu évoqué, sur l'hygiène de vie, le mode de vie. Est-ce que ça a un impact sur notre système hormonal ?
Oui, bien sûr. Donc, par exemple, quand vous savez, on dit souvent, il faut manger des choses naturelles, des légumes, des fruits, des choses faites maison, éviter les aliments ultra transformés. Pourquoi ? Et parce que dans ces aliments ultra transformés, vous avez beaucoup de substances, des additifs qui vont empêcher l'une des hormones principales d'agir correctement, qui est la leptine. La leptine, c'est une hormone qui est fabriquée par les graisses et normalement, c'est une hormone qui est coupe-faim. Or, en mangeant mal, eh bien justement, vous empêchez l'action anti-faim de cette leptine et du coup, vous allez vous mettre continuer à manger sans qu'il y ait de signal de satiété qui arrive.
Aline Perraudin.
Vous voulez dire que dans la malbouffe, il y a des perturbateurs endocriniens ?
Alors, je rappelle juste, selon l'OMS, que les perturbateurs endocriniens sont des substances ou des mélanges de substances qui altèrent les fonctions du système endocrinien et de ce fait induisent des effets néfastes dans un organisme intact.
Exactement. Donc, autrement dit, des perturbateurs endocriniens, ce sont des éléments extérieurs qui vont agir à la place des hormones et donc soit les empêcher de fonctionner, soit au contraire donner des activations qui n'auraient pas dû être. Donc, par exemple, dans le tissu adipeux, donc le tissu adipeux, c'est le mot médical pour dire le gras. On a beaucoup d'hormones qui sont fabriquées, dont cette fameuse leptine. Et effectivement, beaucoup d'excipients vont probablement entraîner une espèce d'inflammation dans notre graisse qui va empêcher notre graisse d'avoir sa action correcte et notamment de fabriquer correctement une leptine qui va agir. Et il y a beaucoup d'autres hormones, par exemple l'adiponectine aussi. Et ces hormones, elles agissent aussi en connexion avec les hormones qui vont réguler le sucre, avec l'insuline, le glucagon. C'est tout ceci qui va entraîner des conséquences.
Et sur les perturbateurs endocriniens, je vous renvoie à une émission que nous avions consacrée à ce sujet, avec notamment le professeur Barbara Demenex. Bonjour Florence, vous appelez de Paris. Quelle est votre question? Bienvenue.
Oui, bonjour. En fait, moi, on a découvert depuis l'âge de 15 ans, j'en ai 68, une hyperplasie des glandes surrénales. Mm-hmm. Alors, d'après ce que j'ai compris, c'est pour ça que j'aimerais bien qu'on me explique. Mes glandes surrénales ne fabriquent pas ou pas assez de cortisone. Donc, je suis sous cortisone depuis le nombre d'années, vous imaginez, 50 ans. Je voulais savoir quelles étaient quelles sont les conséquences de cette prise de cortisone depuis si longtemps? Par exemple, je constate une chute de cheveux importante en ce moment, et bah, a priori, les analyses qu'on a faites ne donnent pas grand-chose.
Réponse du docteur Emmanuel Lecornet-Socol. Merci beaucoup pour votre question, Florence.
Merci, Florence. Alors, la maladie qui est l'hyperplasie congénitale des surrénales, c'est une maladie très rare, c'est une maladie génétique où les surrénales ne fabriquent pas assez de cortisone. Et donc le traitement qu'on vous donne est juste un traitement pour remplacer. Il n'y a pas tous ces fameux effets secondaires qu'on a dit, qui sont dus plutôt quand on donne des très grosses doses de cortisone.
Ben faudra que vous reveniez, hein, parce que nous recevons énormément de questions sur les hormones. Merci beaucoup, docteur Emmanuel Lecornet-Socol. Je recommande vraiment, et si c'était hormonal, avec Caroline Balmache-Aminadour. Merci, docteur Réginald Dallouche. La méthode antidiabète, comment limiter ou stopper les risques, c'est paru en poche. J'ai lu à suivre l'intervention de Thierry Lhermitte, ambassadeur de la Fondation pour la Recherche Médicale. C'est tout de suite après Eddy de Préto.
Souvent je mens pour aussi papillonner, me faire croire que les passants pourraient être tous intéressants. Je m'évente d'admiration, m'extase à l'addiction d'une phrase ou d'un jeté de sourire vite interprété. Souvent je mens pour faire croire à mon dedans qu'il vit démesurément et qu'il peut même plaire à plein temps avec juste un ou deux baisers que je chope à l'envolée. Je m'imagine des volcans qui inonderaient mes champs de plaies. Souvent je mens, je m'excite pour tous les gens qui lancent des banales à temps comme ils lanceraient naturellement des sextos juste pour jouer avec très peu de finalité. Quant à moi, je tombe amoureux devant le paletant des gens fougueux. Souvent, je mens et je sais en faire des caisses assez lourdes apparemment, car elles pèsent tout comme elles restent pendant des semaines de galère où je rame à tout défaire, m'émanciper de ces affaires. Viens, regarde, je ne sais pas le faire. J'ai le cœur en donne, je crois en tout ce qui cogne. Comme, j'ai pas compris les codes, même s'il m'impressionne, comme si j'ai pas la cote. Comme ça, je me mens, j'ai le cœur en donne, chaque fois que je tombe croque. Love, j'ai pas compris les codes, même s'il m'impressionne, comme si j'ai pas la cote. Comme ça, je me mens. Souvent, je mens. Encore plus quand il y a air, je me fais mes films en grand et je fonce même sans critères. Mais s'il s'avère que ce n'est qu'un plan comme d'habitude, je me prosterne car se griller est indécent, surtout devant l'imaginaire. Souvent je mens dans des courses à court de nerfs, ça me donne des jours rêvant d'amour fou et de minerve. Faut oublier les emmerdes, je surveille les blogosphères, tous les détails croustillants qui me mettent encore plus
plus à terre. Souvent je mens pour me donner de l'épaisseur, comme des centaines de manteaux que je mets pour faire couler la sueur. Car ici il fait pas chaud et tous ces sauts donnent la chaleur, avec un tout petit goût de faux qui laisse le tout fat sans saveur. Souvent je mens pour fuiter en douceur, me faire bander aisément dans des rêves lourds, y'a pas d'heure. Je m'imagine même sans dents embrasser des jolis cœurs qui acceptent bénévolement de se livrer à tous mes leurs. Oh.
Edith de Prieto interprété Random. On va essayer d'être un peu sérieux, Thierry Lhermitte, parce que vous me faites rire en antenne, il faudrait qu'on garde le cap du sérieux jusqu'à 11h. Vous êtes donc l'ambassadeur de la Fondation pour la Recherche Médicale. Chaque mois, vous visitez un laboratoire. Coup de projecteur ce matin sur l'équipe de recherche radiothérapie moléculaire d'Eric Deutsch.
Oui, qui est à l'Institut Gustave Roussy à Villejuif, qui est le premier centre de lutte contre le cancer en Europe. Et l'équipe d'Eric Deutsch a montré pour la première fois au monde qu'il était possible, grâce à l'intelligence artificielle, de prédire la résistance à un traitement par immunothérapie à partir d'images de scanner.
Alors qu'appelle-t-on intelligence artificielle ? C'est une sorte de cerveau virtuel plus intelligent que le vôtre et que le mien ?
Ah ben ouais, ça à coup sûr. Hein. Mais l'intelligence artificielle, ça repose sur la création de programmes, d'algorithmes qui vont permettre à des machines d'accomplir des tâches de manière plus précise et plus rapide que ce qu'un être humain peut accomplir en utilisant sa propre intelligence. Alors les programmes créés, ils vont permettre à la machine d'apprendre par elle-même, de s'entraîner, de se perfectionner, à condition au départ de lui avoir rentré un très grand nombre de données fiables, avec des bons exercices et les bons corrigés. Et donc l'intelligence artificielle ne sert pas uniquement à aider les entreprises à vous vendre des choses dont vous n'avez pas besoin, ou à gagner des parties d'échecs ou de go.
Alors grâce à l'intelligence artificielle, l'équipe d'Eric Deutsch a réussi à prédire la réponse à un traitement contre le cancer. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
Oui, c'est une étude qui a été financée en partie par la FRM. Voilà, certains cancers aujourd'hui sont traités par immunothérapie, c'est le traitement qui vise à stimuler le système immunitaire et à renforcer la lutte de l'organisme contre la tumeur. Et pour l'instant, il existait jusqu'à présent aucun moyen de savoir si le traitement pouvait être efficace chez un patient donné. On savait seulement que plus la tumeur et son environnement contenaient de cellules immunitaires, plus l'immunothérapie avait des chances de fonctionner. Donc les chercheurs ont voulu trouver un moyen d'évaluer précisément l'environnement immunitaire de la tumeur à partir d'images médicales afin de prédire l'efficacité
du
traitement.
Thierry, concrètement, comment ont-ils procédé ? Comment s'intègre ici l'intelligence artificielle ?
Alors voilà, les chercheurs ils sont partis d'images de tumeurs de patients, plus précisément de scanners, et pour chaque patient, ils disposaient également des biopsies à partir desquelles ils ont déterminé la quantité de cellules immunitaires. Donc d'un côté, les chercheurs avaient les images et de l'autre, l'évaluation de l'environnement immunitaire. Ils ont apporté les données de 500 patients à un algorithme qui a appris à corréler les caractéristiques des images avec les données biologiques. Donc le scanner était porteur d'une information que l'œil et le cerveau humain ne sont pas capables de voir, d'où l'intérêt d'entraîner un algorithme à les repérer. Et pour vous donner une idée de la complexité de l'opération, imaginez des images de 100 pixels par 100 pixels, c'est-à-dire 10 000 pixels. Tout ça c'est vaguement beige, du plus foncé au plus clair, et distribué aléatoirement pour notre œil. Pour nous c'est impossible d'y remarquer quoi que ce soit. Donc l'intelligence artificielle va chercher des zones qui se répètent dans certaines images par exemple. Le pixel clair 75-22 en haut à gauche, qui est toujours suivi de 3 pixels un peu plus foncés en haut à droite des images. Et cette signature, elle est corrélée à une caractéristique biologique de la tumeur associée à l'image. Voilà ce que fait l'intelligence artificielle et que nous ne pouvons pas faire. Alors là, c'était compliqué, mais imaginez la complexité si au lieu d'une image, donc de 10 000 pixels, vous ajoutez une troisième dimension, comme dans un cube, en 3D, donc 100 par 100 par 100, c'est-à-dire 1 million de voxels. Voxels, c'est comme pixels, mais en volume. Okay. Et les chercheurs donc, ont réussi à créer une signature dite radiomique, c'est-à-dire basée sur l'image, qui est capable d'évaluer l'environnement immunitaire au niveau de la tumeur avec une image.
Alors, est-ce que les chercheurs ont réussi à montrer que cette signature radiomique pouvait prédire l'efficacité du traitement ?
Oui, oui, ils ont prouvé que des patients chez qui l'immunothérapie fonctionnait avaient un score radiomique plus élevé. Et c'est ça qui est important parce qu'il y a juste 15 à 30% des patients qui répondent à l'immunothérapie. Ça permettra donc de ne traiter que ceux qui sont susceptibles d'y être sensibles.
Alors, dans le même laboratoire, les chercheurs utilisent également l'intelligence artificielle pour améliorer la radiothérapie.
Mais oui, parce que la radiothérapie, ça repose sur des images diagnostiques. Alors d'abord, on fait un scanner qui va permettre de doser les rayonnements qu'on va délivrer à la tumeur. Mais le scanner, il permet de voir surtout les tissus durs. Et pour bien cibler les tumeurs, c'est des tissus mous, il faut plutôt de l'IRM. Mais malheureusement, les images de scanner et d'IRM se superposent assez mal. Donc, les chercheurs, ils essayent de faire une IRM virtuelle à partir de l'IRM, de faire un scanner virtuel, de manière à avoir sur la même image les tissus mous et les tissus durs pour cibler précisément la tumeur et même certaines zones de la tumeur.
Voilà. Thierry Lhermitte, comment on fait pour aider la Fondation pour la recherche médicale?
Sur frm.org, on peut envoyer, faire un virement ou avec une carte bleue, ou encore plus simplement, si on veut donner 10 euros sur sa facture de téléphone, on envoie le mot-clé don, D-O-N, ce sera le message, au 92 300. Et 10 euros seront prélevés sur votre facture et iront à la FRM.
Merci beaucoup Thierry Lhermitte, ambassadeur très impliqué de la Fondation pour la recherche médicale. Demain, on se demande pourquoi nos sociétés deviennent de plus en plus irrationnels, sous l'influence notamment d'Internet et des réseaux sociaux, qu'il s'agisse de rumeurs, d'infox, qui peuvent mettre à mal notre vivre ensemble et notre bonheur collectif. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-nous tout au 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter. À la technique ce matin, Charles Pélabon et Pierre-Yves de Rolin.